L'invention de l'imprimerie au 15e siècle et la grande réforme du 16e siècle auront apporté à l'ensemble de l'humanité plusieurs bénédictions. La plus grande, selon moi, c'est que depuis ce temps, donc la combinaison de l'imprimerie et de la grande réforme, ça aura permis à l'homme commun de posséder la Sainte Bible. Donc de pouvoir s'en acheter une, de pouvoir l'étudier, de la méditer et de la partager dans le corps local, dans son entourage. Ça a permis également de casser, je vous dirais, l'oppression vaticanesque, tant au niveau doctrinal que au niveau social. Et évidemment, dans l'étude de la parole, puisqu'elle était accessible, il y a eu éventuellement des interprétations qui se sont faites. OK? Déjà au 16e siècle, il y a un sujet central qui a été abordé en profondeur, puis qui a conduit à un sérieux clash entre théologiens et protestants. Ce sujet, qui est un point, je veux dire, incontournable à la foi chrétienne, c'est l'assurance du salut. Il y a deux camps qui se sont bâtis au 16e siècle, et le débat continue plus que jamais, cette fin de 2025. Donc, le premier camp, mais c'est ce qu'on appelle le camp des calvinistes, avec évidemment à sa tête Jean Calvin, qui affirmait qu'il est impossible de perdre son salut puisque le salut éternel ne dépend pas de nous et que Dieu est fidèle à ses promesses. De l'autre côté, s'est bâti un autre camp, que l'on appelle le camp arminien, qui est inspiré là, du théologien hollandais Jacob Arminius. Lui affirmait que oui, un chrétien véritable peut perdre son salut éternel, puisque selon lui, le salut plutôt dépend en très bonne partie de soi-même, du croyant. Okay? Donc c'est comme si Dieu nous donne le cadeau du salut et pendant toute notre vie chrétienne, eh bien il faut préserver ce salut-là, ce cadeau-là, jusqu'à notre dernier souffle. Évidemment, c'est un très bref résumé ici. Pour appuyer leur thèse, mais les Arminiens utilisaient et utilisent encore plus que jamais le début de Jean 15, qui est intitulé Le Cep et les Sarments, pour essayer de convaincre les chrétiens qu'il est possible de perdre son salut. Moi, je vous invite à lire le texte. Ce que je vais faire tantôt, je vais lire Jean 15 et les 13 premiers versets, 1 à 13. Et on va voir ensuite si les Arminiens sont sur une bonne piste, si leur thèse fait du sens, en vertu de ce texte-là, mais aussi en vertu de d'autres textes. Donc, si on fait la lecture, ça va comme suit. Et tout le long, c'est le Christ qui parle à ses disciples. Ça dit, le Seigneur dit plutôt, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, je répète ici, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Donc la première question qui est fondamentale ici, c'est Est-ce que le thème central du texte qu'on vient de lire, Jean 15, est-ce que c'est vraiment le salut éternel? Un premier indice pour répondre à cette question-là, c'est que le sarment, donc la branche qui est attachée au sap, donc au frame, si on veut le corps central de la vigne, eh bien, tous les sarments, ils sont de la même nature que le cep. Et le cep, on sait que c'est Christ. Si nous sommes les sarments et que Christ est le cep qui nous porte, donc la vigne qui porte ses branches qui ont poussé, quel est l'élément essentiel qui nous unit? Qu'est-ce qui unit le cep et les sarments qui y sont rattachés? Eh bien, ça ne peut qu'être que notre nouvelle nature. Christ a vaincu le péché et la mort en devenant le premier-né d'entre les morts. C'est ce que Colossiens 1:18 nous confirme. À notre tour, nous avons foi en l'œuvre parfaite et complète du Christ, nous permettant ainsi la résurrection d'entre les morts, donc de suivre ce que Christ a commencé, donc de revêtir l'incorruptibilité aux yeux du Père à travers son Fils Jésus, et devenir ainsi de nouvelles créatures, comme 2 Corinthiens 5:17 nous l'annonce. Le verset Éphésiens 1:13 nous enseigne que chaque croyant qui croit dans l'œuvre du Christ pour la rémission complète de nos péchés passés, présents et futurs, nous tous sommes scellés du Saint-Esprit. Un sceau, faut-il rappeler, de Dieu, qu'aucun homme, ange ou principauté peut rompre. Quant à lui, le chef des apôtres, Pierre, dans sa première épître au chapitre 1, verset 23, il nous écrit que nous avons été régénérés par une semence incorruptible, par le moyen de la parole de Dieu. Incorruptible. Un passage, je pense que vous connaissez tous bien, qui est la fin de Romains chapitre 8. L'apôtre Paul nous écrit ici qu'à la lumière de toute la révélation divine qu'il a reçue, de la part du Seigneur personnellement, que l'apôtre a l'assurance qu'absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à travers le Christ Jésus. Donc je fais référence ici plus précisément au verset 38 et 39. Donc toute cette série de versets que je viens de vous énumérer converge notre attention vers le fondement biblique suivant. Lorsqu'une personne est en Jésus-Christ, elle est sauvée éternellement par la grâce de Dieu, qui lui fut donnée au moyen d'une foi sincère dans l'œuvre parfaite et complète de Christ. C'est ici l'engagement d'une bonne conscience qui se fait au moment de la nouvelle naissance. Dieu sème en nous quelque chose d'incorruptible, donc ça ne peut pas être défait. Ça ne peut pas se corrompre. C'est le fondement même de la régénération du croyant. Et qu'il n'y a pas de retour en arrière à la lumière des textes qu'on a lus, puisque nous sommes nés de nouveau. Donc, on ne peut pas dénaître. Et comme un frère dans notre groupe, il s'amuse toujours à le dire à chaque fois qu'on traite du sujet, tu sais, au final, est-ce que Dieu nous a choisis ou il ne nous a pas choisis? Et là, on parle de avant même la fondation du monde. Si maintenant on va dans Éphésiens 2, les versets 8 à 10, eh bien, ça nous le confirme. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous avons aucun pouvoir sur notre propre salut, parce que ça ne vient pas de nous. Ça vient du Dieu Tout-Puissant qui nous a choisis. Si on revient à la question du début que je nous ai posée à tous, est-ce que finalement, le début de Jean 15 traite vraiment du salut éternel? À la lumière de ce qu'on a discuté juste avant, d'affirmer que Jean 15 traite de la possibilité de perdre notre salut, est d'affirmer que la parole de Dieu se contredit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne peux pas aller là. On parle de régénération, d'incorruptibilité. Le Christ va dire dans Jean 11, dans sa discussion avec Marthe, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il va ajouter ensuite au verset 25-26 « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Comme Marthe, sa conscience peut avoir chancelé, mais elle est en Jésus-Christ. Et rien ne peut séparer ça, un coup que tu es en Jésus-Christ. À l'image de Paul, qui a dit « J'ai l'assurance de mon salut », eh bien, je tiens à dire que j'ai l'assurance que ce livre-là est cohérent du début jusqu'à la fin, et qui surtout ne se contredit pas. Malheureusement, les Arméniens semblent croire que la parole se contredit ici et là, et n'ont aucun cas de conscience. Ça ne lui fait rien. Comme si leur doctrine, leur néo-doctrine, qui a même pas 5 siècles de vie, passait avant les fondements bibliques. Ah, que c'est triste. Et moi, j'ai une question pour les Arméniens. Comment peux-tu mener une vie victorieuse quand qu'à chaque matin que le Seigneur fait et te permet de vivre sur cette terre, tu te dis que peut-être aujourd'hui, peut-être cette semaine, peut-être dans le mois qui s'en vient, il est possible que je perde mon salut. Pourtant, l'apôtre qui a été le plus proche du Christ, l'apôtre Jean, que ce soit dans 1 Jean 4:4 ou 1 Jean 5:4, il nous dit que le croyant, présentement, sur terre, peu importe son époque, sa génération, il dit le croyant a déjà la victoire. C'est conjugué au passé. Il a déjà la victoire en Jésus-Christ. De remettre ça en doute, bien, c'est de passer à côté de cette victoire-là qu'on a en Jésus. Cette assurance, le fait d'être capable d'aller voir les autres, le fait d'être capable de tendre la main aux autres et de vraiment se soucier de les aider. Quand tu penses que tu perds ton salut, je suis désolé, tu deviens égocentrique. Tu es centré sur ton nombril pour être sûr que tu ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Ce qui ne fait aucun sens avec l'ensemble de ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Comme on l'a lu, le texte de Jean 15 aborde la notion de porter du fruit. C'est ça le thème central. Ça n'a rien à voir avec le salut ici. Éphésiens 2:9, comme on l'a lu, nous enseigne clairement que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Donc, ce n'est pas nos efforts qui vont permettre de préserver notre salut. Donc, Jean 15 ne traite tout simplement pas du salut éternel, mais plutôt de la qualité d'un disciple, de Jésus, et des bénédictions et récompenses célestes qui s'y rattachent. On l'a lu tantôt. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Et qu'est-ce qu'il dit un peu plus haut? Nous l'avons lu. Il dit que tout ce que vous allez demander, vous le recevrez. Donc de demeurer en Christ, ça, en fait, c'est le verset 7 ici. Si vous demeurez en Christ et que ses paroles demeurent en nous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, c'est l'aspect de la qualité d'un disciple et des bénédictions qui y sont rattachées. On ne parle pas de salut éternel. Puis, je vais vous faire la preuve aussi avec des textes tout à l'heure qui vont appuyer cette thèse-là. On l'a dit au début, tout sarment a la même essence que le cep, puisque ce serait comme deux végétaux incompatibles sinon, et que nous sommes nourris, alimentés par la même sève. Donc, on parle ici de gens qui sont régénérés, qui ont droit à la première résurrection, à savoir notre grande famille céleste dans toutes les époques et générations. Galates 5:1 va nous dire, nous enseigne que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc on voit ici un élément de victoire. Si la vigne de Dieu n'est composée que de personnes affranchies, donc qui sont appelées à la première résurrection, sont affranchies par Christ, élues avant même la fondation du monde, selon l'enseignement d'Éphésiens 1, les versets 4 à 14, il y a des croyants en Jésus-Christ qui utilisent leur liberté pour entrer vraiment dans les œuvres de Dieu. Moi, je les appelle les disciples de Jésus-Christ, ces gens-là, qui sont vraiment investis dans le discipulat et la croissance du croyant. Ça, peu importe, encore une fois, l'époque que l'on traite, sous la dispensation de la grâce. Et, bien, il y a d'autres croyants en Jésus-Christ qui utilisent mal, et parfois très mal, leur liberté en Jésus-Christ. Je le dis souvent en Église Maison, il y a beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de défaites. Il est question de ça ici, dans Jean chapitre 15. Pensez-y. À quoi bon sert Dieu d'avoir des disciples qui, oui, sont scellés de son esprit, qui, oui, sont régénérés d'une semence incorruptible, mais à quoi bon ça lui sert si à tout coup ils marchent à contre-courant et sont toujours, que leur conscience est toujours en guerre contre les volontés du Saint-Esprit pour l'avancement du royaume? À quoi ça servait de garder plus longtemps les croyants qui ont été Saphira et Ananias au début d'acte 5? Même chose pour le jeune Corinthien qui couchait avec sa belle-mère dans 1 Corinthiens 5. J'aimerais ça qu'on le lise ensemble. Parce qu'on va pouvoir faire d'autres liens avec d'autres portions de la Bible. 1 Corinthiens 5, les 5 premiers versets. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair ainsi que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Au verset 5, donc le dernier verset que j'ai lu, est-ce qu'il est question pour le jeune homme qu'il perde son salut? Non. Pourquoi? Parce que l'apôtre, il l'a dit. Afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, lorsqu'il se révélera à nous, dans toute sa gloire. Il n'est pas question de salut éternel ici. C'est plutôt que son serment devienne purifié par le feu divin. C'est pour son bien qu'il a demandé à Dieu, « Dieu, occupe-toi-en de ce jeune-là. » Et le bon dénouement, c'est quand on lit 2 Corinthiens 2, donc, on peut penser à quelques années plus tard, après la rédaction d'un Corinthien, eh bien, ce jeune-là revient à l'Assemblée. Il revient plus fort dans le Seigneur. Il a été affaibli, comme 2 Corinthiens 12 nous dit, il a été affaibli pour devenir fort aux yeux du Seigneur. On va reculer maintenant de deux chapitres. Ça, c'est un point central ici. 1 Corinthiens 3, on va lire les versets 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense et pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Ce même feu qui concerne Jean 15 et qui concerne aussi un passage comme Hébreux 10, les versets 26 et 27. On parle de récompense céleste ici. Et c'est très bien indiqué au dernier verset, le verset 15. Il sera sauvé. Sauvé! Comme à travers le feu. Paul prend le temps de nous rassurer qu'un tel frère ou une telle sœur sera sauvé éternellement. Sinon, il ne l'aurait pas écrit. Mais d'une manière très éprouvée. Comme s'il était retrouvé nu devant Dieu. Pour donner une image ici. Ces gens concernés font partie de la vigne de Dieu. Tout comme les très bons disciples. Ils seront de la première résurrection. Lorsqu'ils vont comparaître devant Christ, eh bien, ça va être un moment plus rough pour eux. Sauvés comme à travers le feu. Et en ce qui a trait Saphira et Ananias, j'ai cette conviction-là que c'est ce qui arrive et ce qui arrivera pour eux. Sauvés comme à travers le feu. Puisque s'ils avaient été des païens non convertis, quelle aurait été la puissance du Saint-Esprit en eux? Mais ici, ça nous a été donné comme exemple. Mais je n'ai aucune crainte pour leur salut éternel. Puis pour compléter ce message, et bien en lien avec les derniers versets qu'on a abordés, je nous invite à lire le passage 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 5 à 10. Lisons-le ensemble. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Nous aimons mieux quitter ce monde et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Et là ici, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Comparaître au tribunal de Christ. Qui sera présent au tribunal de Christ? Est-ce que ce seront les athées, les légalistes, les païens spirituels, les gens pris dans des faux cultes toute leur vie, les démoniaques? Non, pas du tout, parce que selon Apocalypse 20, les versets 11 à 15, ces gens-là comparaîtront au grand trône blanc devant Dieu. Alors que le tribunal de Christ est réservé à tous ceux qui auront fait partie du corps de Christ selon leur génération respective, donc à savoir l'Église grand E, depuis la croix du calvaire. Donc il ne sera pas question ici à savoir si celui qui comparaît est sauvé ou non. Il sera plutôt question de quelles sont ses bénédictions et de la proximité qu'il y aura avec Dieu dans les temps éternels. Christ évaluera la qualité de notre discipulat à chacun. Dans toute la liberté qu'il nous aura accordée, comment nous aurons utilisé cette liberté-là? Comment que nous aurons mis en phase notre conscience personnelle avec les désirs de l'esprit? Galates 5, 17. C'est ça qui sera évalué. Et après une étude du genre, et je vais y aller avec un volet plus personnel ici, je rends vraiment grâce à Dieu pour la rédaction et la publication de mon premier livre, qui a pour thème central le discipulat, spécifiquement en Église Maison, puisqu'après des années d'études, il est clair pour moi que c'est en Église Maison qu'on bâtit de vrais disciples de Jésus-Christ, et non pas des croyants spectateurs. Et depuis 3 ans, je vois les fruits. Vous pouvez aussi en discuter avec Jonathan. On les voit les fruits de tout ce que je n'ai jamais vu avant en Église conventionnelle. C'est le modèle des actes des apôtres. Et l'idée de l'Église maison, mais c'est inspiré de l'agapé. C'est que tout le monde contribue, tout le monde apporte, tous les membres participent. En participant, comme notre salut, ça leur donne de l'assurance pour ensuite former d'autres disciples. C'est les fruits dont la semence produise d'autres fruits. En Église conventionnelle, c'est beaucoup plus difficile. Et de toute façon, comme le disait Charles Spurgeon, le grand prédicateur du 19e siècle, c'est toujours une personne à la fois, le discipulat. Et chaque croyant est appelé à devenir un disciple pour former à son tour d'autres disciples pour le temps qui lui est imparti. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ça, pour le livre de la vision cellulaire. Et en cette fin d'année, bien, puissiez-vous méditer sur le contenu de ces enseignements de pouvoir fortifier votre assurance et aussi de la défendre lorsque vous serez confronté à des hérésies. Et on va se le dire, Internet, c'est pas ce qui manque des hérésies. Et pour maintenir, je vous dirais, un esprit clair et purifié, encore une fois, l'Église maison est le modèle par excellence pour y arriver. Frères et sœurs, joyeux Noël et que l'année 2026 soit remplie de bénédictions et de fruits pour vous tous. Bonne journée.